9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Andréa Bescon.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes danseuse, comédienne, scénariste, réalisatrice, vous êtes malgré vous au cœur de l'actualité. En 2014, vous aviez écrit la pièce Les Chatouilles ou La Danse de la Colère,
ouais.
Pièce qui a reçu le Molière du Seul en Scène, pièce qui est devenue un film, qui a reçu le César de la meilleure adaptation, c'était en 2019. Ce film, ce spectacle, pardon de le dire, raconte les viols que vous avez subis lorsque vous étiez enfant, de la part d'un ami de vos parents. Vous aviez entre 9 et 12 ans. Vous avez mis des années à pouvoir dénoncer ce que vous avez subi, car c'est vous qui vous sentiez coupable. Et justement, dans ce but, vous avez publié « Et si on parlait ?» trois petits livres pour aider les enfants, les bambins, les pré-ados à parler de tout sans tabou. C'est chez Harper's Collins. Je précise que ces trois ouvrages ne parlent pas seulement d'inceste ou d'agression sexuelle, mais également de confiance en soi, d'homosexualité ou de la violence sur Internet. Mais d'abord, plusieurs questions d'actualité, notamment avec le phénomène d'édition qu'est le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, où elle évoque les agressions sexuelles perpétrées sur son frère jumeau par le politologue Olivier Duhamel, l'éruption du hashtag MeTooInceste qui a généré plus de 80 000 témoignages. Et hier, ce tweet et cette prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, qui, je cite, « veut adapter notre droit pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste ». Pardon d'être long, mais il faut expliquer tout le contexte. Ouais. Le président de la République a annoncé le lancement d'une initiative sur les violences sexuelles commises pendant l'enfance. Deux rendez-vous de dépistage et de prévention, l'un au primaire, l'autre au collège, seront mis en place pour tous. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est une mesure que vous préconisiez? Est-ce que c'est de l'affichage?
D'aller faire un travail de détection, c'est fondamental. Et bien sûr, c'est une très bonne mesure. Et ça, faut le développer partout, dans tous les secteurs qui touchent à l'enfance. Hein. C'est fondamental. Mais aussi même des formations chez les magistrats, dans les rangs de la police. Enfin, la formation, en règle générale, il faut vraiment, vraiment l'ouvrir sur beaucoup de secteurs. Donc ça, ce sont de très bonnes mesures.
Et je vous pose la question parce que souvent, vous avez dénoncé le manque de courage politique.
Oui. Bon, là, je le dénonce surtout au niveau des lois, en fait. Des lois, effectivement, de l'argent public qui pourrait être ouvert à ce type de formation, de prévention et de détection. Mais là, on le voit aujourd'hui qu'au Sénat, ils ont adopté la loi Billon à l'unanimité sur un seuil de non-consentement à 13 ans. C'est catastrophique, quoi. Alors, bien
sûr... Expliquez de quoi il s'agit. Parce que quand on voit 13 ans, on dit, tiens, ça protège les jeunes enfants.
Oui,
or, c'est complètement contre-intuitif. C'est que plus le chiffre est grand, plus ça protège. Expliquez.
C'est-à-dire que là, sur ce seuil de non-consentement à 13 ans, ils partent du principe que quand tu as 18 ans et plus, tu peux être avec quelqu'un de 13 ans sans que de 13 à 18 ans sans que la question du consentement soit posée. Nous, forcément, on trouve que c'est beaucoup trop jeune.
Ils voudraient le mettre à 15 ans.
Oui, à 15 ans. Puis en plus, la plume fait foi. C'est vrai que quand on voit Vanessa Springora, Eva Thomas, Christine Angot, Sarah Abitbol, Flavie Flamand, ce sont des personnes qui ont été violées entre 14 et 15 ans. Victor Kouchner aussi. Et donc forcément, le moins de 13 ans ne sert à rien. Alors oui, ils te disent que c'est une avancée considérable parce qu'il n'y a pas de loi. Certes, c'est vrai, il n'y a pas de loi. Mais mettre une loi à 13 ans, c'est contre-productif.
Le président de la République a demandé au ministre de la Justice, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, et au secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, je cite, de mener une consultation qui devra déboucher rapidement sur des propositions. Ces consultations débutent aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que vous avez été convié?
Adrien Taquet m'a envoyé un message. A priori, oui. Il y a Muriel Salmona aussi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes à auditionner. Franchement, vu le nombre de personnes qui luttent aujourd'hui, que ce soit Camille Kouchner, que ce soit Arnaud Gallet, Sarah Abitbol, enfin, il y en a des tas, Innocence en danger. Oui, ben évidemment, j'y allais, mais je trouve ça un petit peu. Je trouve qu'on procrastine. Alors, évidemment, Adrien Taquet va dire c'est pas bien. Oui, mais on procrastine parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, ce seuil de non-consentement, pas besoin d'auditionner la terre entière pour savoir que c'est pas cohérent d'être à 13 ans et non à 15. Puisqu'en fait, un seuil de non-consentement à 15, ça veut dire qu'un majeur de 18 ans peut sortir avec quelqu'un de 15 ans, mais pas en deçà. C'est-à-dire qu'il y a un écart d'âge de 3 ans.
Vous avez déjà rencontré Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux ?
Je l'ai eu au téléphone.
Et vous êtes dit quoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la semaine dernière, vous écriviez ceci sur un tweet. Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux en France en 2021. Il n'a rien compris à l'inceste et à la pédocriminalité.
Oui, non, mais bon, il minimise constamment. Enfin, on le sait, je veux dire, c'est pas un scoop. Hein, de savoir que bon, les féministes sont des ayatollahs, qu'il faut pas trop se presser pour changer les lois sous le coup de l'émotion. Je veux dire, l'émotion est passée depuis longtemps. Hein. Ça fait 25 ans, 30 ans que les associations tirent la sonnette d'alarme, que les gens sur le terrain tirent la sonnette sonnette d'alarme, que des livres et des films sont créés, montés, etc. Donc, et que quand j'entends qu'un seuil de non-consentement à 15 ans va être une atteinte à la liberté individuelle, excusez-moi, c'est sûr que ça me rend dingue, ouais.
Andrea Bescon, ça la rend dingue. Hélène Manarino arrive. J'espère que ça ne vous rendra pas dingue. C'est votre portrait inattendu qu'on attend beaucoup. À tout de suite.
Okay.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Andrea Bescon. Et si on se parlait, ce sont trois petits livres qu'elle publie pour apprendre aux enfants à parler. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est vous qui allez parler, mais de choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joyeuses.
Bonjour Andrea Bescon.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors une vie tout en mouvement, une passion pour la danse. Je vous propose ce matin de créer la chorégraphie de votre vie, Andrea. Incapable de rester dans votre chambre, petite, vous étiez toujours à l'extérieur. Vos premiers pas étaient faits pour créer. En CM2 par exemple, vous avez réussi à convaincre le professeur du club d'échecs d'arrêter ses cours pour vous laisser le créneau pour créer des spectacles avec des élèves. Souvent en battle avec les instituteurs, c'est vous qui donnez la cadence. En sixième, vous avez négocié pour que les heures d'études permettent aux élèves de célébrer les anniversaires.
Non, c'est, oui, vrai, c'est vrai. Et ça a marché.
Ouais, c'était génial. Beau souvenir.
L'étude devenait donc une piste de danse remplie de confettis, de cotillons. Le seul avec qui vous ne faisiez aucun pas de côté, c'était votre professeur de PS, Monsieur Belliot. Eh bien oui, il vous faisait bouger. Enfant avec son petit caractère aussi, vous avez été puni par vos parents le jour de votre fête d'anniversaire devant tous vos amis. Eh oui, Andrea Bescon, passons au grand ballet de votre adolescence. Vous étiez à la pointe des séries télé comme Premier Baiser, Salut les musclés.
Ah, super série.
Eh oui, vous aimiez...
Quelle culture.
On adore Duction. Vous aimiez gambader aussi avec votre bande de copains, notamment en Bretagne, et surtout faire des séances de spiritisme. D'ailleurs, vous seriez entré en liaison avec Kurt Cobain.
C'est pas vrai.
Vous vous souvenez ?
Je me souviens pas.
Eh ben si.
Lui s'en souvient.
Oui, certainement. Thomas Gilmore.
Andrea Bescon, une ado pleine de rêves, sans limite, évidemment rêveuse romantique, surtout quand vous écoutiez cette chanson.
La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me.
Et Andrea Bescon chante en même temps.
Son métier de italien.
La solitudine, Laura Pausini, un solo de danse, mais un beau duo en amour. Notamment avec votre premier amour, Fabrice, que vous nommiez Ducrot. Mais le pas de deux...
Waouh, la tête qu'elle a faite. Vous sortez les dossiers là, Hélène.
Ah bah oui, je l'ai dit.
Ouais,
hein.
Ouais.
Mais le pas de
vous
deux...
Vous attendiez pas celle-là.
Non, non, pas du tout.
Le pas de deux était souvent donné, était souvent fait pardon, avec votre frère quand il s'agissait de faire Moissac-Toulouse pour livrer des pommes en Peugeot 205. Andrea Bescon, vous avez aujourd'hui l'exigence d'une formidable chorégraphe, même quand vous faites votre yoga. Vous n'aimez pas rater les choses, surtout quand cela concerne vos enfants. Vous ne supportez pas quand la valise est mal faite, par exemple, ou quand le gâteau est raté. Vous ne supportez pas ne pas comprendre, comme ce jour où vous avez été sur un dériveur pour la première fois. Vous vous êtes énervé parce que vous ne compreniez pas d'où venait le vent.
Oui, c'est Eric Métayer, cette info. Je l'ai grillé.
Sauf qu'en général, même les plus pros mettent 30 ans à le savoir. Vous êtes incapable, eh ben oui, de passer au dessert si la table du repas n'est pas débarrassée complètement. Alors, Andrea Bescon, la danse omniprésente. Emmenez vos enfants danser sous la pluie, vous adorez ça. Leur chanter la chanson Les Doigts de la Main, mais aussi chanter des titres de Pomme, de Camille. Et vous laissez aller sur Sia. L'insouciance, la vie, les mouvements, vous vous autorisez quelques cabrioles parfois, comme perdre souvent vos clés, votre portable. Le rythme, vous le tenez parfaitement, surtout en soirée, vous êtes la dernière à partir. Reine des groupes WhatsApp, comme la MIF, comme le groupe Silence on tourne, avec les gens du cinéma. Vous créez un groupe pour la fondue, pour la raclette partie. Vous avez raison, tout est bon pour rassembler. Les pas s'enchaînent, les mouvements sont plus lents quand vous êtes devant une série, comme le jeu de dames, et oui. Et l'émotion est là devant les performances des enfants dans The Voice Kids.
Ah oui.
Andrea Bescon, un des ballets les plus importants de votre vie, c'est celui qui consiste à être tournée vers les autres. Généreuse, amie, fidèle, bienveillante, vous prenez le soin chaque jour d'écrire à tous les gens qui vous entourent. Le collectif vous inspire, vous avez toujours besoin de données propres d'une artiste. Vous vous êtes mise à la guitare et vous avez joué tous les jours aux côtés de votre cousine malade. Vos mélodies l'ont accompagnée jusqu'au bout. Votre cousine qui est aujourd'hui votre danseuse étoile. Andrea Bescon, la danse, c'est aussi le voyage. Vous rêvez de repartir en Inde, de faire un trek aussi. Bon, même si quand vous voyagez, il faut faire attention dans les aéroports. Parfois, c'est compliqué, comme ce jour à Munich, quand vous avez failli rater votre avion, puisque les hôtesses lançaient un dernier appel pour vous, mais vous n'avez pas reconnu votre nom.
Non.
Eh oui.
Ça m'est arrivé.
Andrea Bescon, prête à tout pour aider les autres, continuer votre ballet, d'aider à libérer les mots, les paroles. Votre danse de la colère est devenue aujourd'hui la danse de l'espoir, que les choses changent, et c'est en partie grâce à vous.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. Andrea, vous séchez vos larmes.
Mais non, mais bon, c'est... évidemment, vous parlez de ma cousine, alors ça ravive un gros chagrin. Et en même temps, une force incroyable, puisqu'elle est partie, elle avait 36 ans, on avait le même âge, et que dès lors, j'ai pris la mesure de l'importance de la vie et de cet instant présent, et la mesure effectivement de, tiens, qu'est-ce qu'on fait là, dans cette vie, quel est le but, et est-ce que la valeur du collectif n'est pas fondamentale. Et donc, je crois qu'en effet, être porté vers les autres, par exemple, dans cette lutte contre la pédocriminalité, moi, ce qui m'a reconstruite majoritairement, c'est d'entendre les différents témoignages, d'entendre le travail des associations, pouvoir discuter avec eux et me rendre compte que j'étais pas seule et me rendre compte que j'avais plein de choses à apprendre de tout ce système, quoi. Voilà.
Merci Andrea Bescon pour ces mots. Merci aussi Hélène Manarino pour ces mots.
Merci beaucoup Hélène.
À demain.
Merci
Hélène.
Beaucoup.
Andrea Bescon reste avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Andrea Bescon, et si on parlait, son trois petits livres pour aider les enfants, les bambins, les préados à parler de tout sans tabou, c'est chez HarperCollins. On va en reparler. D'abord, on va parler d'actualité artistique. C'est quoi vos projets, Andrea Bescon ?
On vient de terminer un tournage qui s'appelle À la folie pour M6, qui sera un unitaire sur les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Il y a sexuelles aussi, mais il y a tout. C'est tout le mécanisme d'emprise, en fait, qui précède justement les violences conjugales. Avec Marie Gillin et Alexis Michalik, c'est Léonore Bauer et Guillaume Labbé qui ont écrit le scénario, qui est magnifique. Et donc avec Éric Métayer, on s'est dit, tiens, allez, on va le défendre. Et donc on l'a réalisé, il sortira cette année sur M6, je ne sais pas quand. Et puis on tourne notre deuxième long métrage cet été, qui s'appellera Quand tu seras grand, avec les films du kiosque qui nous avaient déjà accompagnés sur les chatouilles. Et là, ça sera avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gillin aussi qui repart avec nous, Carole Franck. Et là, c'est sur l'intergénérationnel, les enfants, les personnes âgées, ça se passe dans un EHPAD, qui est un personnage à part entière. Et voilà, on parle de ça, de comment ça communique entre les générations aujourd'hui, quoi.
Éric Métayer, qui est votre compagnon.
Oui.
Il écoute des vinyles, Éric Métayer ?
Ah, il en a pas mal. Il les écoute plus trop, parce qu'on n'a pas... Ouais, faudrait qu'on s'y remette. Il me raconte beaucoup de trucs.
Voilà, faut réparer la platine.
Pink Floyd, beaucoup Pink Floyd.
Voilà,
Pink Floyd,
je pose la question pour faire un lien avec Eva Rock. Rebonjour,
oui.
Eva.
Petit lien.
Parce que ce matin, vous revenez avec, dans votre besace, des films, de la musique et des vinyles.
Oui, exactement, Philippe. Parce qu'au regard de votre parcours, Andrea, je me suis dit que vous ne pouviez pas ne pas être sensible à la musique, que c'était impossible, ah oui, que ça devait faire partie de votre vie.
Oui.
Et la semaine dernière, sont sortis un livre disque et trois vinyles dans une collection qui est baptisée « Écouter le cinéma », qui est conçue depuis 2001 par Stéphane Lerouge, qui est un grand spécialiste de musique de film. Et le livre est un condensé de bonheur. Des réalisateurs parlent de compositeurs avec qui ils ont travaillé. Les compositeurs parlent aussi des réalisateurs. Le tout est illustré évidemment par plusieurs morceaux que vous retrouvez dans le CD. Et j'en ai choisi quatre. Alors c'est totalement subjectif, hein, je m'en excuse par avance, mais bon voilà. Je vous propose de commencer avec Stéphane Grappelli.
Ah oui, il fallait que je dise quelque chose.
Ouais, mais c'est pas grave.
Vous avez raison, Grappelli qui a composé des musiques de films.
Mais
moi, je le connaissais comme... Mais... Non, je le savais pas, c'est pour ça que vous
mais
êtes
alors
là.
Attendez, c'est
moi,
plutôt
je
drôle.
Le connaissais comme violoniste.
C'est plutôt drôle parce que lui, le musicien de jazz classique, a posé des notes de son violon sur un des films les plus sulfureux. Alors, on va pas faire un blind test, mais à moins que vous ayez retenu, reconnu plutôt.
Moi, je
musique,
le sais parce que j'ai votre texte.
Mais
que
ce
j'ai
sont,
oublié.
C'est les Vatsols de Bertrand Blier. Bertrand Blier qui raconte à quel point, en fait, ça l'amusait de mêler l'histoire de ces loubards modernes, en fait, à ce jazz qui a un peu un parfum suranné, en fait. Hein. Et alors, pour la petite histoire, sachez que Bertrand Blier avait d'abord montré le film à Serge Gainsbourg pour qu'il en fasse la musique. Et ce dernier avait refusé de collaborer au film parce qu'il avait été choqué par le film.
Non.
Alors, choquer Serge Gainsbourg, c'est quand même assez étonnant. Ah, voilà.
Énorme info. Quelle autre histoire vous a marqué, Eva ?
Alors, savez-vous qui a composé la musique de La Folie des Grandeurs de Gérard Oury ?
Pas du tout.
On la connaît tous, cette musique, hein ?
Ouais.
Clément ?
C'est une cover des Chats, c'est... des Western Spaghetti, mais je sais pas qui c'est.
C'est Ennio Morricone ?
Non, c'est Michel Polnareff. Ouais. On est dans les années 70, Polnareff est une star. Et Gérard Horry raconte donc dans ce livre une anecdote savoureuse. Au moment de la sortie du film, il est entre une interview à Radio France et une autre à Europe 1. Europe numéro 1 à l'époque. Ils déjeunent tous les deux au Fouquet's. Paul Naref arrive comme à son habitude en jean délavé, lunettes noires, vous savez, le débardeur au-dessus du nombril, avec sa tignasse. Et les voisins de table interpellent le maître d'hôtel en lui demandant « Alors comme ça, vous recevez les clochards ?» Réponse cinglante de Gérard Horry, « Les clochards, non. Les connards, oui. » Et les deux hommes ont claqué la porte du restaurant, bien évidemment.
Voilà. Et alors, du côté des États-Unis, comment ça se passe ?
Alors, je vous conseille de lire l'interview d'un homme pour lequel j'ai une admiration sans faille, Quincy Jones. Est en 1963. L'actrice Lynn Horne offre à Sidney Lumet un disque de Quincy Jones. C'est un de ses premiers. Le réalisateur est en train de terminer son film, Le prêteur sur gage, et Lumet craque sur Quincy Jones et il va décider de lui laisser carte blanche pour ce film, alors que Quincy Jones n'a jamais écrit pour le cinéma. Il compose alors une partition qui mêle le jazz moderne, le lyrisme, et puis de la musique du XXe siècle, évidemment. Alors l'agent de Quincy Jones est persuadé qu'à la suite de ce film, les réalisateurs vont se précipiter pour lui proposer d'autres films. Ben, Quincy Jones, il a failli être viré du tournage suivant quand le studio a découvert qu'il était noir.
Wow.
Donc il y avait encore du boulot.
Dernière musique de film ?
Celle d'un film que j'aime tout autant que son réalisateur et ses interprètes.
Ce soir, nous sommes septembre.
Les choses de la vie de Claude Sauté avec Michel Piccoli, Samy Frey et Romy Schneider qui posent sa voix sur la musique de Philippe Sard. Ce film est vraiment l'acte de naissance de la collaboration entre le compositeur et le réalisateur. Et Claude Sauté dit joliment « À partir des choses de la vie, Philippe est devenu le deuxième père musical de mes films. Cette affirmation peut paraître excessive, elle contient pourtant sa part de vérité. » Voilà, c'est un livre disque et trois vinyles qui sont édités chez Universal et que je vous conseille grandement.
Merci beaucoup Eva Roch. Qui va faire la musique de votre film ?
Clément Ducol.
D'accord, qui est-il ?
Qui avait déjà fait Les Chatouilles.
Clément Ducol qui a déjà fait Les Chatouilles, merci beaucoup. Qui travaille en l'occurrence avec Camille, qui est l'arrangeur de Camille. Qui compose tous les instruments de Camille. C'est quelqu'un de grand talent. Et en plus, il est très bon acteur. Il est venu jouer pour nous aussi dans À la folie. Il est génial. C'est un homme de grand talent.
Camille Andréa Bescon, quelle référence. Merci beaucoup, Eva Roch. Andréa Bescon, vous restez avec nous. On va parler de jeux vidéo. Vous jouez aux jeux vidéo ?
Alors, moi, pas du tout.
Et vos enfants ?
Mes enfants ont 45 minutes de jeux vidéo par jour.
Alors, j'espère que dans ces 45 minutes, il y aura les 5 minutes de Clément Le Saffre. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Et emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu cette maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi.
Mon refuge. Mon refuge, c'est évidemment Julien Clerc sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable, c'est Clément Le Saff qui va nous faire découvrir le meilleur jeu vidéo d'infiltration de l'année. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'André Abescon qui publie trois petits livres pour les 3-6 ans, les 7-10 ans, les 11 ans et plus. Petit livre qui parle également des écrans, ce qui fait le lien avec Clément Le Saff. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler avec vous jeux vidéo et vous nous recommandez aujourd'hui le premier gros jeu vidéo de l'année, c'est Hitman 3.
Oui, Hitman c'est une franchise qui rappellera de bons souvenirs aux joueurs et plutôt de mauvais aux cinéphiles. C'est une licence qui a été créée en 2000. Le héros c'est un tueur à gages implacable, l'agent 47, crâne rasé, code barre tatoué sur la nuque, costume noir cintré, regard d'acier et pistolet avec silencieux.
I think they called me 47.
That's not a name.
So make it one.
All right. Agent 47.
Alors ça c'est l'intro, on comprend bien déjà que notre agent n'est pas un comique, il est là pour se faire un nom, vous allez m'appeler agent 47 et point à la ligne. Mais c'est un artiste de la mort, hein. L'agent 47 effectue le sale boulot des agences d'espionnage, il tue les cibles qu'on ne peut pas tuer officiellement. Et depuis 20 ans, il y a eu 7 jeux qui alternent entre le moyen et le très bon, et 2 films en 2007 et 2015 qui alternent eux entre le mauvais et le très mauvais. En 2016, la saga Hitman a été rebootée avec une trilogie de jeux pensés comme des films, et Hitman 3 est donc la conclusion de l'histoire.
Et donc ça veut dire que si on n'a pas fait le 1 et le 2, c'est foutu.
Alors heureusement, non, je vous rassure, il y a bien une histoire qui se suit, mais les événements des deux premiers jeux sont récapitulés au début du troisième. En gros, l'agence pour laquelle travaille l'agent 47 traque une organisation secrète qu'on pensait gentille, mais qui est en fait méchante, ça va pas chercher bien loin. Hein. Mais l'intérêt d'Hitman, ce sont les missions, et chacune peut se jouer séparément, donc là, peu importe le scénario, il y en a 6 dans Hitman 3 à chaque fois. Le but, c'est d'assassiner une ou plusieurs cibles dans un environnement fermé, en haut d'une tour à Dubaï, dans un manoir anglais cossu, dans une boîte de nuit berlinoise. Et à chaque fois, vous avez un briefing de mission. C'est en anglais et ça donne un côté très cinématographique. Écoutez.
Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali.
Donc là, ce qu'on entend, effectivement, c'est l'agent de liaison de l'agent 47 qui lui explique qu'il va falloir infiltrer le sceptre, une immense tour à Dubaï, pour aller chercher deux cibles qu'il faut éliminer. Et là, on entre dans le cœur des jeux Hitman, là, préparation, puisque l'assassinat en tant que tel, c'est juste l'aboutissement, ça n'a pas grand intérêt, mais si le jeu est savoureux, c'est parce qu'il faut en arriver jusque-là, justement, et pour ça, il faut être méthodique, enquêter sur la cible, choisir la bonne approche et faire preuve de beaucoup de patience.
Donc si je voulais résumer en choisissant mes mots, c'est pas un jeu bourrin où on tue tout le monde.
Non, pas du tout. Alors vous pouvez essayer, mais vous allez échouer lamentablement, je préviens, oui, puisque merci. De toute manière, il faut sortir en vie du lieu, donc vous pouvez pas rentrer et tuer, tuer tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ouais. Vous allez vous faire arrêter et vous allez perdre. Mais voilà, si je prends un exemple, par exemple, dans la tour de Dubaï, il faut tuer donc deux invités VIP d'une fête. Il y a donc beaucoup de monde autour de vous. D'abord, il faut déjà repérer les cibles, vous ne les connaissez pas, il faut donc analyser l'environnement, les suivre, les épier, puis il faut trouver un moyen de les approcher, hein. Vous pouvez improviser ou bien suivre un scénario qui est tracé par le jeu et qui est écrit un peu comme un scénario de film, par exemple en vous déguisant en cuisinier pour empoisonner leur plat ou en garde du corps pour tromper leur vigilance et au moment où ils sont seuls, hop, vous les attrapez. Et pour finir, il faut choisir votre arme de prédilection, vous pouvez les empoisonner, utiliser un bon vieux pistolet avec un silencieux ou même une corde de piano. Oui, c'est assez original, c'est très inventif comme jeu. Et c'est surtout l'intérêt, c'est qu'on peut rejouer et rejouer encore, puisque une fois que vous avez fait une mission avec une approche, vous pouvez la refaire avec une autre approche. Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment parce que quelque part, avec ces missions aux quatre coins du monde, comme ça, où on voyage beaucoup, cette infiltration subtile, les gadgets, les déguisements. Mais en fait, Hitman, c'est un peu, en jeu vidéo, la même chose que les films comme James Bond et Mission Impossible.
Wow, rien que ça, Hitman, donc, ça vous tente?
Oui, c'est sympa. Bon, moi, je ne suis pas très jeu vidéo, je n'ai pas le temps.
Pas
mais
vos enfants ça... jouent?
Alors, mes enfants ont droit à leurs 45 minutes de jeu vidéo.
Ils jouent à quoi?
En fait, ils jouent avec nos téléphones. Ils jouent à Among Us, un jeu où tu dois être, comment on appelle ça déjà, imposteur.
C'est ça, ou, Clément nous en avait parlé etc. ici.
Le jeu, 500 millions de joueurs dans le monde.
Ouais. Voilà, puis du coup, ils appellent leurs copains par WhatsApp et puis jouent un petit peu en groupe. Et aussi, ils se font un peu flipper avec Five Nights at Freddy's, où voilà, j'ai mon fils qui a 9 ans et qui dit « Oh, j'aime bien me faire peur !»
9 ans, moi,
ça.
J'y jouerais pas, hein, très clairement.
Ouais, c'est vrai.
Déjà, moi, j'y joue aujourd'hui. Ouais. Déjà,
c'est pas j'ai regardé...
C'est un jeu qui peut même faire peur à vous.
C'est un animatronique qui vient te surprendre. Alors, c'est la surprise, comme ça, du monstre. En fait, c'est un mélange entre un robot et un animal. Ouais. Et Anton, moi, je disais, Anton, enfin, mon fils, je disais, mais attends, si ça te fait flipper, on arrête. Enfin, regarde, je regarde avec toi. Bon, moi, effectivement, je vois l'effet de surprise. Il me dit, oh, mais j'adore, en fait, ça me fait une montée d'adrénaline, j'adore. Et ça ne le traumatise pas du tout. Après, il n'y a rien de sanguinaire, il n'y a pas de violence.
C'est des grosses peluches, quoi.
Des grosses peluches qui te font des surprises. Voilà.
Enfin, c'est des grosses peluches qui font quand même peur à Clément Le Saffre.
Ah, tout à fait.
Merci Clément d'avoir été avec nous.
Merci Clément.
Vous revenez avec une grosse peluche la prochaine fois.
Je vais trouver ça.
André Bescon, animatroniques.
Vous restez avec nous, André Bescon. Culture Média continue à parler de ces trois livres justement. Oui. Et ça parle notamment des écrans, mais pas seulement. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie d'Andrea Bescon, l'auteur ou l'autrice des Chatouilles, qui publie trois petits livrets chez HarperCollins, s'appelle « Si on se parlait ». Il y a trois éditions, une pour les 3-6 ans, une pour les 7-10 ans et une pour les 11 ans et plus. Je précise que ces trois ouvrages ne parlent pas seulement d'inceste et d'agression sexuelle, mais aussi de harcèlement, de confiance en soi, d'homosexualité, de la violence sur Internet. Mmh. C'est quoi le but de ces livres, Andrea Bescon ?
C'était de montrer que l'enfant est un être de droit, ce que beaucoup d'adultes oublient, en fait. Donc on dit souvent le livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou, mais en l'occurrence les enfants parlent quand même beaucoup, mais on les écoute pas, donc c'est aussi pour qu'il y ait une lecture commune entre adultes et enfants et qu'il puisse y avoir un dialogue établi entre un enfant et l'adulte qui est en charge, que ce soit le parent ou l'adulte à responsabilité, et ce qui permet surtout de détecter des situations problématiques.
Ouais, en même temps, il y a une situation, ça s'adresse aux parents plus qu'aux enfants, parce que vous avez 3 à 6 ans, vous n'allez pas acheter un livre en librairie.
Exactement.
Donc comment faire pour toucher les enfants de ces parents-là qui sont déviants, et j'emploie à dessein un mot faible.
Il faut faire rentrer tout ça à l'éducation nationale déjà, c'est évident, des préventions accrues dans l'éducation nationale dès la maternelle, oui évidemment. Il faut que ce type d'ouvrage fasse l'aller-retour entre l'école, la maison, l'école.
La première chose que vous racontez, c'est que quand les enfants subissent des attouchements, ce n'est pas à eux de se sentir coupables. Vous dites qu'il faut en parler à un adulte de confiance. Ouais. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi illustré par Mathieu Tucker. Ouais. Et par exemple, l'adulte de confiance, il est dessiné avec une cape. C'est un super-héros. Il faut que l'enfant ait envie de parler. Dans le livre 7-10 ans, vous parlez d'agression sexuelle. Vous prenez un exemple qui a été écrit bien avant le livre de Camille Kouchner. Mm-hmm. Vous prenez l'exemple de Mathilde et Léo. Ils ont 7 ans. Ils parlent d'inceste et ils sont jumeaux.
Oui, c'est un hasard incroyable, effectivement.
Parce que je le précise, c'est Camille Kouchner qui est la jumelle de Victor, qui raconte les attouchements qu'a subi Victor.
Ah, d'ailleurs, j'avais pas fait tilt. Effectivement, oui, c'est Mathilde et Léo. Ils parlent de cette personne de confiance, cette personne qu'ils aiment et qui les aime et qui pourtant leur fait du mal et les viole.
Et c'est ce que dit Camille Kouchner dans son livre de Famille Lagrande, c'est qu'elle aimait son beau-père et c'est pour ça qu'elle s'est tue.
Oui, c'est l'emprise, la situation incestueuse qu'elle décrit très très bien.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'emprise, c'est un mot qu'on trouve, c'est un mot noir, péjoratif. On imagine Dark Vador, l'emprise, c'est parfois de la part de gens très, très, très sympathiques.
Mais tout à fait. Mais généralement, ils attendent aussi un moment de vulnérabilité. On voit qu'Olivier Duhamel, a profité d'une très grande dépression d'Evelyne Pizier pour pouvoir abuser du fils Kouchner. C'est souvent ça. Les pédocriminels et les incestueux, vont chercher des périodes de vulnérabilité pour faire ce qu'ils veulent, quoi.
À la fin de l'ouvrage, pour des 11 ans et plus, vous donnez des numéros d'écoute d'urgence, police secours, Allô Enfance en danger, SOS Racisme, et celui-ci que je ne connaissais pas, CRIAVS, qu'est-ce que c'est ?
C'est pour les pédocriminels et les pédophiles. Hein. Je déteste ce terme, on ne dit pas pédophile, mais les personnes qui auraient des attirances sexuelles envers les enfants et qui ne seraient pas encore passées à l'action. Le CRIAVS, c'est un numéro où on peut être entendu, on peut être conseillé, on peut être dirigé des psychothérapies, psychanalyse, avoir des rendez-vous avec des psychiatres qui peuvent vous aider à ne pas passer à l'acte. Et ça, c'est très important. Il faut aider les agresseurs. Il faut prendre le problème sous tous les angles.
Ne pensais pas prononcer un jour cette phrase. C'est des structures qui peuvent apporter de l'aide aux adultes sexuellement attirés par les enfants. 0800 130 3x0, 0800 130 3x0. Vous m'avez dit hors antenne, je ne quitterai pas ce studio sans dire un mot de l'âge du consentement et de ce qui se passe au Sénat et des promesses qui ont été faites.
Oui, Monsieur le Président s'est engagé en novembre 2017 à instaurer un seuil de non-consentement à 15 ans. Il a parlé de conviction personnelle, il a parlé de protection des mineurs. Il y a eu un recul considérable dans la foulée. Donc je pense qu'énormément de politiques lui ont fait des pressions, y compris le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui prône l'inconstitutionnalité d'un texte de non-consentement. Et ça, la Constitution, je veux dire, le président peut demander à la réviser, ce qu'a fait Mitterrand par exemple pour la peine de mort. On peut demander une révision de constitution quand la constitution n'est plus connectée à sa société, ce qui est le cas aujourd'hui sur la violence sexuelle sur mineurs.
De par vos engagements, vous avez été contacté par Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État avec qui vous êtes devenue très amie. Vous avez parlé de ça avec elle, vous lui avez dit de faire pression sur son mari.
Oui, bon, après Brigitte Macron, elle essaye de garder le cap n'étant pas trop inclus dans un service politique. Bon, après, je pense qu'effectivement, elle a déjà fait pression pour avoir un secrétariat à l'enfance avec Adrien Taquet, qui est devenu ministre délégué. Bon, maintenant, oui, on se parle régulièrement. Et je dis, écoute, c'est vraiment très important que ça bouge et que le déni vole en éclats, puisqu'il y a encore un déni des politiques autour des violences sexuelles sur mineurs.
Il y a une semaine, vous regrettiez que les petites filles parlent, les femmes parlent et pas les hommes.
Ouais.
Et vous avez vu ce qui est arrivé, l'irruption de ce hashtag vendredi. MeToo, gay, c'est quand même quelque chose de...
Mais oui, parler les hommes, parler, révéler ce qui vous est arrivé. Alors évidemment, il y a l'amnésie traumatique. Des fois, malheureusement, on disait ça tout à l'heure, on peut être complètement enfermé dans une amnésie traumatique et se souvenir des violences qui ont été subies 50 ans plus tard. C'est pour ça qu'on appelle à l'imprescriptibilité sur ces crimes de masse. Mais forcément, les hommes, on sent qu'il y a un hyper tabou par rapport à la virilité. Allez-y, révélez ce qui vous est arrivé.
Il y a un double tabou, la souffrance endurée, plus le tabou de l'homosexualité.
Bien sûr, et non, allez-y, libérez-vous, parce que c'est vraiment important, libérez-vous, soutenez ce combat.
Merci beaucoup, André Bescon. Et si on se parlait, merci d'être venu en parler dans Culture Média en direct. Nous, on se retrouve demain à 9h avec le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez. On va parler avec lui de Culture Box. C'est une nouvelle chaîne éphémère que monte son groupe dédié à la culture. Et puis, Yann Arthus-Bertrand pour Legacy, son film documentaire très personnel qui retrace 50 ans d'engagement pour la planète. Après le flash chez Anne Romanoff, ça fait du bien, c'est le titre. Merci encore, André Bescon.
Merci, Philippe Vandel.
À demain.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.